RCF. L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois.
Mais avant cela, l'invité de la matinale. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Véronique Bontemps de RCF Bruxelles. Bonjour Véronique.
Bonjour Pierre-Hugues. Oui, ce matin, nous allons parler de l'Église belge parce que nous sommes en compagnie de Monseigneur Luc Terlinden, l'archevêque de Malines-Bruxelles. Bonjour Monseigneur.
Bonjour.
Bonjour et merci d'être avec nous en studio ici à Bruxelles. Au mois de septembre dernier, la télévision flamande a diffusé un documentaire donnant la parole à des victimes d'abus sexuels. Depuis, la société belge est très attentive à la parole de l'Église sur les abus, très critique aussi. Il y a quelques jours, vous étiez auditionné par les parlementaires belges. Que leur avez-vous dit ?
D'abord, nous avons rappelé et redit vraiment notre honte devant les faits qui de nouveau ont été mis à jour par ces émissions, en reconnaissant aussi que dans l'Église et par certains de ses membres, il y a eu vraiment de graves défaillances, et plus que des défaillances, parce que parfois ce sont même des crimes, et nous n'avons pas toujours réagi comme il fallait. Mais on aura aussi présenté ce que nous avons entrepris, déjà depuis 1997, pour combattre ce fléau et se mettre à l'écoute des victimes et essayer de pouvoir les accueillir du mieux qu'on peut. Alors, c'est quelque chose qui se fait progressivement parce que il faut le temps et on découvre toujours mieux aussi cette réalité très douloureuse. Il y a eu en 2010, après l'affaire du scandale provoqué par l'évêque de Bruges, Roger Van Gelu, qui avait abusé d'un de ses neveux, une commission d'enquête parlementaire qui a abouti aussi à des initiatives que l'Église belge a pris conjointement avec le Parlement belge, ce qui, je crois, à mon avis, est assez unique au monde, notamment des initiatives pour l'accueil des victimes, spécialement les victimes dont les faits sont prescrits, pour qu'elles puissent être reconnues dans leur détresse, dans leur douleur, pour qu'elles puissent recevoir aussi une parole d'excuse de la part de l'Église, à travers des représentants de cette Église, et qu'elles puissent aussi avoir à travers une transaction, une reconnaissance matérielle, même si ça ne couvre pas du tout toute leur douleur et tout ce que ça représente.
La question de l'indemnité.
Et à côté de ça, avec le temps, on a développé de plus en plus d'initiatives, que ce soit au niveau de la prévention et de la formation, notamment des prêtres et des futurs prêtres. On a voulu aussi continuer ce travail d'accueil des victimes, d'écoute de reconnaissance de leur souffrance. Un grand souci pour nous, c'est aussi l'accompagnement des prêtres pédophiles. Et donc ça, c'est un grand enjeu. Alors, comment est-ce qu'on va les suivre? Est-ce qu'il y a une possibilité, après un certain temps, après une peine ou quoi, de les réinsérer?
Et à ce titre, d'ailleurs, il y a l'exemple de l'évêque de Bruges, Véronique Bontemps.
Oui, les néerlandophones sont un petit peu fâchés parce qu'il n'est pas encore réduit à l'état laïque. Enfin, je dis les néerlandophones, mais c'est tout le pays. Est-ce que vous pensez que le Vatican va agir dans ce sens?
Mais une nouvelle procédure est en cours. Il avait déjà été sanctionné en 2011. Et donc, avec un dossier qu'on a présenté, la conférence des évêques et la demande que nous avons adressée, le Vatican aujourd'hui est en train d'examiner ce dossier pour revoir la peine qui lui a été infligée.
Donc, ça prend du temps, évidemment, tout ça.
Oui, mais donc ils sont occupés. Il ne faut pas maintenant en mettre la pression. Il faut laisser les juges au Vatican faire leur travail.
Et vous pensez que dans combien de temps l'ancien évêque de Bruges pourrait être réduit à l'état laïque?
Ah ben, j'ai aucune idée, puisque maintenant c'est entre les mains de Rome et de ses juges. On a quand même souhaité que un éclaircissement dans cette affaire arrive avant la visite du pape en septembre chez nous.
Puisqu'effectivement, en septembre prochain, le pape François sera à Louvain. Il devrait venir en Belgique au mois de septembre pour fêter les 600 ans de l'université de Louvain. C'est une grande fête, évidemment, la venue du pape dans le pays et en Belgique, on le devine. Quel est le programme?
Alors, le pape vient à l'occasion des 600 ans de l'université catholique de Louvain, mais il vient aussi visiter l'église de Belgique et la Belgique, en fait. Ce qui est assez exceptionnel en Europe occidentale, donc on est peut-être un peu privilégié, ou alors est-ce un signe que l'Église belge maintenant se situe plus dans les périphéries, à chacun de juger, mais c'est une grande joie.
Exceptionnel parce qu'il va visiter le pays, c'est ça que vous voulez dire?
Oui, et qu'il a fait très peu de visites en Europe occidentale, de pays. Et je crois que c'est son cœur qui a parlé parce qu'il a des attaches lointaines avec la Belgique, notamment à travers des amis belges qu'il avait en Argentine. Mais à côté de ça, pour nous, c'est aussi, je crois, l'occasion donner à notre Église, à nos fidèles, un nouvel élan. Et je perçois beaucoup d'attentes aussi chez les fidèles en Belgique, qui après, on vient d'en parler, la crise des abus, la crise spécialement de l'évêque de Bruges, hein, dont on vient de parler, et puis le Covid récemment. Je sens que les évêques, et spécialement plutôt les fidèles, ont cette attente de pouvoir se réunir, se retrouver autour d'un grand événement. Et ici, grâce à la venue du pape François, eh bien, je pense que nous allons vraiment pouvoir vivre ce moment d'espérance aussi pour nous booster dans notre mission d'annonce de l'Évangile.
D'ailleurs, la Belgique est un pays très déchristianisé, très sécularisé. Comment l'Église prépare-t-elle l'accueil de ce pape à ce titre-là? Est-ce que pour tout le pays, au-delà des frontières de l'Église, dans les périphéries, quand même, à dire le pape François, ça peut être une fête?
Je pense que oui. Donc, on sait que très souvent, avant la venue d'un pape, il y a des polémiques où qu'il aille. Hein. Et qu'au moment où le pape est là, ça provoque vraiment souvent un enthousiasme et qui dépasse bien souvent les frontières de l'Église. Donc là, je suis assez confiant. Et puis aussi cet aspect, hein, s'il vient visiter la Belgique, l'Église de Belgique, il vient aussi pour les 6 ans de l'université. Et donc, ça implique aussi des visites à Louvain et Leuven, donc du côté néerlandophone, et à Louvain-la-Neuve, qui est la nouvelle université du côté francophone, en Wallonie. Et ce sera vraiment une rencontre, là, avec le monde académique dans sa diversité, et qui reflète aussi la diversité de la société belge aujourd'hui. Une rencontre aussi entre la foi et la science, la foi et la raison, dans le monde d'aujourd'hui. Et donc, ça nous ouvre aussi à des horizons plus larges que simplement la vie locale de l'Église.
Il y aura peut-être une béatification, en tout cas, c'est ce qu'on rêve, parce que Anne de Jésus, un miracle a été reconnu à Anne de Jésus.
La consœur de Thérèse d'Avila.
Exactement, c'était une compagne de Thérèse d'Avila, Anne de Jésus, qui a fondé beaucoup de carmels dans le nord de la France, dans notre région ici, à Bruxelles, où elle a terminé sa vie, où elle est décédée, et où elle repose. Et c'est pour ça que, après la reconnaissance du miracle, donc sa béatification va être célébrée ici à Bruxelles. Et c'est vrai que, avec la postulation de la cause d'Anne de Jésus, on a proposé que ça puisse se faire au moment de la visite du pape. On verra si c'est bien le cas. Ce serait une grande joie et c'est montré aussi une très belle figure d'une femme qui était une femme de foi profonde et en même temps très dynamique, très entreprenante.
Et est-ce qu'il y aura un moment de rencontre avec le peuple belge, comme il y a pu avoir à Marseille, au stade Vélodrome, où tous les Marseillais et tous les Français étaient rassemblés pour voir le pape? Est-ce qu'il pourrait y avoir un moment semblable ici à Bruxelles lors de la venue du pape?
Exactement, oui. Donc nous avons suggéré, si le pape vient, et qu'il y ait un moment autour d'une Eucharistie qui puisse rassembler un maximum de fidèles. Hein.
Parlons à présent, Monseigneur Luc Terlinen, avec vous du synode. Il y a plusieurs synodes, il y a l'esprit synodal qui est en marche un petit peu partout, et notamment en Belgique, les évêques belges qui ont écrit un document proposant pour ce synode de l'Église catholique sur l'avenir de l'Église, l'ordination d'hommes mariés, le diaconat des femmes, plus de décisions au niveau des conférences épiscopales. Je posais la question sans embâge, Monseigneur Terlinen, est-ce que l'Église belge est la deuxième Église la plus progressiste du monde après l'Église allemande?
D'abord, ordonner les hommes mariés, on vient d'en ordonner un dans le diocèse, ça se fait depuis 2000 ans dans les églises catholiques, à travers les églises orientales. Donc, je pense
mais
pas
aujourd'hui,
que
dans les églises orientales seulement, et pas dans les traditions
orientales. Non, bien sûr, mais en soi, ce n'est pas très progressiste. Même le diaconat féminin, il a existé dans le temps. Sous quelle forme? On peut encore réfléchir. Donc, de ce point de vue-là, je dirais, ce n'est pas tellement progressif, c'est plutôt redécouvrir sa tradition. Nous posons la question. Nous ne disons pas qu'on exige que ce soit fait. On voudrait surtout, dans notre ici préparation de la phase suivante du synode, attirer l'attention sur l'importance aussi, comme Église, pour la mission, pour l'annonce d'Évangile, d'être aussi à l'écoute de ce que vit la société et le monde, ce que le Concile a appelé les signes des temps. Et que donc notre Église ne soit pas refermée sur elle-même, mais qu'elle puisse être à l'écoute et être interpellée aussi par ce qui se vit dans le monde. Parce que si on veut annoncer aujourd'hui l'Évangile, il faut aussi être attentif à ce qui se passe aujourd'hui, dans notre vie, dans notre société.
Et inversement, qu'est-ce que l'Église peut apporter au monde, Monseigneur?
Je crois que ce qu'elle apporte, c'est d'abord et avant tout, c'est l'Évangile, et la joie de l'Évangile. Mais elle ne peut l'apporter que si l'Église se fait proche, si les chrétiens se font proches de nos contemporains, en nouant des liens d'amitié, de confiance, en sachant aussi accueillir l'autre, accueillir ce que l'autre a à nous donner, à nous apporter. Et on a des exemples dans l'histoire de l'Église qui nous montrent bien que l'Église a aussi appris des choses de la société, qui a on a pu mieux comprendre l'évangile parfois, notamment quand je pense au 19e siècle, sur la question de la cause ouvrière. Hein. L'Église n'a pas été pionnière dans la défense de la cause ouvrière. Hein, et pourtant, l'interpellation qui venait du monde de la société lui a permis de mieux vivre l'évangile en prenant fait et cause aussi pour les ouvriers à l'époque et la condition ouvrière.
Je vous parlais de l'ordination d'hommes mariés, du diaconat des femmes. Vous disiez que ce n'est pas forcément progressiste. Pour autant, il y a des initiatives pour le moins innovantes en Belgique. Au Brabant Wallon, une femme vient d'être nommée déléguée épiscopale. Elle sera aidée d'un prêtre. Ce sont aussi des choses étonnantes dans la place des femmes dans l'Église. Monseigneur Luc Terlinen, quelle vision vous voulez de la place des femmes dans l'Église? Dans quelle mesure doivent-elles prendre des postes de responsabilité?
Bien, c'est aussi un des signes des temps et je crois que l'Église doit être attentive à ça et à reconnaître aussi ce charisme des femmes. Et si vous prenez l'exemple que vous avez cité là au moment long, avec une femme déléguée, elle n'est pas simplement là parce que c'est une femme, mais aussi pour ses compétences et son charisme, dans le respect de la diversité justement des missions dans l'Église. Et donc, ce n'est pas une concurrence. Elle-même ne se présente pas comme revendiquant quoi que ce soit, d'être ordonnée ni quoi que ce soit, mais dans la complémentarité des missions, des charismes. Et donc, je crois que c'est là aussi un des enjeux du synode, c'est de redécouvrir cette complémentarité. Parce qu'on n'arrivera pas à vivre la synodalité, cette écoute mutuelle, ce discernement commun, si en même temps on ne reconnaît pas non plus la place du ministère ordonné. Et le rôle que le ministère ordonné a aussi, d'être signe de cette présence du Christ.
Et comment va-t-on continuer cet esprit synodal en Belgique?
Très concrètement, on n'est qu'au début du chemin, parce que moi j'ai toujours dit que ça prendrait des décennies pour qu'on puisse vraiment intégrer cette manière de marcher ensemble, d'être ensemble, de se mettre à l'écoute les uns des autres, pour écouter ensemble l'Esprit Saint, pour faire des discernements, pour faire des choix. C'est petit à petit qu'on arrivera à mieux implanter cela. Et ça commence dans nos communautés locales, dans nos conseils. Comment est-ce qu'on a le souci d'être à l'écoute les uns des autres? Et on peut être aidé d'ailleurs par des traditions très, très, très louables dans la vie religieuse notamment. Ça fait longtemps que dans la vie religieuse, il y a déjà des formes de synodalité.
Monseigneur Luc Terlinen, peut-être pour finir, un mot pour le carême qui a lieu en ce moment. Qu'est-ce que vous les souhaitez aux auditeurs de France et de Belgique qui nous écoutent ce matin pour conclure?
Mais j'aimerais leur souhaiter un joyeux carême. Un joyeux carême. Le carême est un temps de pénitence, un temps de conversion, mais toujours à la lumière de l'évangile, de l'appel du Christ, et qui nous conduit à Pâques. Et donc c'est le souhait que je ferai à nos éditeurs. Et quand je vois d'ailleurs les catéchumènes qui cheminent vers le baptême, eh bien ils nous invitent aussi à cette espérance, à cette joie.
Merci beaucoup, Monseigneur Luc Terlinen, d'avoir été ce matin l'invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes l'archevêque de Malines-Bruxelles, président de la conférence épiscopale belge. J'en profite d'ailleurs pour signaler aux auditeurs que mardi, c'est votre homologue français, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, qui sera l'invité de la matinale. Et merci beaucoup, Véronique Bontemps.
Merci, Pierre-Hugues.
De nous avoir accompagnés ce matin. Vous êtes et vous travaillez également ici à RCF Bruxelles.